Première.
13h15, 14h30.
Un jour dans l'histoire.
Laurent de Hausset.
Nous sommes en 1535. Clément Marot, poète français, est l'un des premiers à s'inscrire dans une nouvelle forme de versification apparue avec la Renaissance, le blason, qui s'inspire des textes médiévaux propres aux chevaliers qui décrivaient leurs armoiries, donc le blason. Ici, il s'agit plutôt de chanter la beauté des femmes jusque dans les moindres détails. Marot célèbre la poitrine de son ami. Tétin refait, plus blanc qu'un œuf, tétin de satin blanc tout neuf, tétin qui fait honte à la rose, tétin plus beau que nulle chose, au milieu duquel est assise une fraise ou une cerise, que nul ne voit, ne touche aussi, mais je gage qu'il est ainsi. À travers les siècles, les saints ont inspiré les artistes et joué un rôle politique dans l'histoire. C'est le voyage que nous allons entamer aujourd'hui.
La première,
13h15, 14h30,
un jour dans l'histoire.
Et son bras et sa jambe et sa cuisse et ses reins, polis comme de l'huile, ondule comme un cygne, passé devant mes yeux clairvoyants et sereins, et son ventre et ses seins, ses grappes de ma vigne.
Voilà, Yves Montand qui interprète une partie du poème de Baudelaire, Les Bijoux, et pour évoquer l'histoire des saints à travers les siècles, Marc Lemonnier est avec nous. Bonjour Marc Lemonnier.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui paraît aux éditions Jourdan, qui s'appelle tout simplement L'histoire de saints. 90 histoires pour répondre à quelques questions essentielles, la principale étant toute simple, hein, pourquoi donc toutes ces jeunes filles sont-elles nues? On va commencer avec celles dont les saints sont parmi les plus célèbres, ou plutôt l'absence de saints, les Amazones. Alors tout d'abord, les Amazones, c'est une légende, c'est une réalité?
C'est notamment une légende. En tout cas, c'est une légende qui a été rapidement colportée. Et ça n'est pas tout à fait vrai de dire qu'elles ont une absence de saints, c'est une absence partielle. Mmh. C'est-à-dire qu'elles, d'après cette légende colportée par les auteurs de l'Antiquité, elles se faisaient amputer d'un saint pour pouvoir tirer à l'arc plus facilement. Et ce que je raconte, sans doute avec malice, c'est que tous les films qui sont inspirés de cette légende et qui jouaient sur cette analogie entre filles avec des saints et Amazones, eh bien les montraient avec deux saints, et préféraient même les montrer dénudées, et elles sont devenues les héroïnes de toute une série de nanars italiens, de ces films incroyables qu'on tournait dans les années 60, des péplums avec Massiste et des choses comme ça. Et il y a une Amazone très connue, qui est sur les écrans actuellement, qui elle a encore ses deux seins mais couverts, c'est Wonder Woman, qui est elle aussi une Amazone, qui a peu de rapport avec la mythologie initiale.
Dans la mythologie, les rapports avec les hommes sont plus ou moins tendus.
Ils sont plus ou moins tendus, elles ne s'en servent que pour procréer une fois par an, et ensuite elles les jettent, faut bien dire ce qui est. Dans le meilleur des cas, elles les tuent. Et quand elles ont des enfants mâles, eh bien, ces enfants deviennent soit leurs esclaves, soit sont tués purement et simplement. Ce ne sont pas des gentilles filles, il faut dire ce qui est. Et de surcroît, elles n'ont qu'un sein.
Alors, si on reste du côté de la légende, on peut tenter de rencontrer quelques sirènes qui barbotent seins nus, elles aussi. Ça n'a pas toujours été le cas d'ailleurs. Dans la mythologie grecque, elles ont d'autres talents que la nudité.
D'abord, elles chantent très faux, très fort. Elles attirent les marins, elles les poussent à connaître les joies du naufrage. Ce ne sont pas des filles nues dans la mythologie grecque, ce sont des espèces d'oiseaux assez moches. En fait, c'est une fusion de mythologie, c'est-à-dire que la Grèce, avec Homère, a donné le personnage étrange qui devient naufrageur. Et les mythologies scandinaves, là, ont inventé, proposé l'image d'une fille, effectivement, au sein nu avec une queue de poisson, qui a été alors définitivement ancrée dans le marbre, en l'occurrence dans le bronze, avec la statue de Copenhague de la petite sirène adaptée du conte d'Andersen. Et c'est à partir de ce moment-là, à partir du conte d'Andersen, que s'est formé définitivement ce personnage affriolant de fille topless avec une queue de poisson, ce qui a beaucoup embêté sans doute les dessinateurs de Disney qui ont raconté l'histoire d'une petite sirène qui ne pouvait être que chaste. En tous les cas, elle chante.
Ouais, une petite sirène, d'ailleurs, de Copenhague, qui a subi les foudres de la censure, d'ailleurs.
Sur Facebook, ouais. Mais tout le monde est censuré sur Facebook, donc ça n'est pas si grave. Oui, effectivement, parce qu'elle est effectivement les seins nus. Ouais, ouais.
Les sirènes belles, nues et dangereuses, ça pourrait convenir à l'une des femmes les plus sulfureuses de l'histoire. C'est Lucrèce Borgia, la fille du pape Alexandre VI et d'une belle romaine, comme vous le rappelez, Vanosa Catane, César Borgia, son frère, l'un des grands hommes de la Renaissance. Alors, Lucrèce, qui probablement a été représentée en 1520 par le peintre Bartolomeo Veneto dans un tableau qui s'intitule « Portrait d'une femme en fleurs ». On la voit vêtue de blanc, elle porte un voile qui est décoré de feuillage, un médaillon autour du cou, un petit bouquet à la main et puis le sein gauche qui est nu. Que nous raconte ce portrait ?
D'abord, il nous raconte que le personnage fascinait. Ce qui est déjà une chose, puisque c'est un personnage qui justifiait qu'on en fasse une image, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Et puis, elle raconte aussi que les peintres, comme c'est d'ailleurs le sujet principal de mon bouquin, les peintres avaient besoin de prétextes pour représenter la nudité féminine pendant très longtemps, et ça n'a cessé, somme toute, qu'à la fin du XIXe siècle. Pendant 4 ou 5 siècles, on représentait des filles nues qui représentaient soit des allégories, soit des personnages mythologiques, soit des personnages de la Bible. Merci, Bézabé, David, etc. Ça donnait de la chair féminine à montrer. Et là, ça raconte qu'on pouvait avoir des prétextes pour montrer la nudité d'une personnalité, d'un personnage célèbre. En l'occurrence, on la représente en Flore, Flore étant une divinité secondaire qui s'occupait des choses agrestes, des forêts, des champs. Et Flore, dans est représentée traditionnellement la poitrine dénudée et avec des fleurs dans les cheveux. Et ce en flore qu'on retrouve au XVIIIe siècle avec des peintres de cour est quand même le prétexte idéal. Et concernant Lucrèce Borgia, il y a quelque chose de plus, c'est qu'il y a aussi un discours autour d'un autre personnage qui s'appelait Flore, qui était une courtisane assez célèbre dans les années précédentes et qui avait répandu des bienfaits dans les cités de l'Italie de cette période. Donc il y a 3 messages en un seul, c'est-à-dire qu'on montre le personnage réel, Lucrèce Borgia, on la montre sous les traits d'une déesse, on rappelle l'existence d'un personnage historique qui était un bienfaiteur de la cité et en même temps on la montre à poil, parce que c'est quand même très fort.
Et le cinéma, d'ailleurs, beaucoup plus tard, profitera d'ailleurs de cette occasion pour déshabiller quelques actrices. On reviendra au cinéma tout à l'heure, mais enfin, Edwige Feuillère, en 1935, se baigne nue déjà dans un film d'Abel Gance. Martine Carole, un peu plus tard, chez Christian Jacques. Elles interprètent donc Lucrèce Borgia. De la mythologie au cinéma, en littérature ou dans l'histoire, les seins des femmes nous parlent. Nous sommes avec Marc Lemonnier.
Tu vois mes pieds dans la glace ?
Oui.
Jolie.
Oui, très.
Et mes filles, tu les aimes?
Oui.
Tu les aimes, mes genoux aussi?
Oui, j'aime beaucoup tes genoux.
Et mes cuisses? Tu vois mon
derrière dans la glace? Oui.
Tu les trouves jolies, mes fesses?
Oui. Très.
Et mes seins? Tu les aimes?
Oui. Énormément.
Un jour dans l'histoire.
Sur la première.
Voilà une séquence, rentrée dans la grande histoire du 7e art, extraite du Mépris, le film de Godard avec Brigitte Bardot et Michel Piccoli. Alors, Marc Lemonnier, on va rester encore du côté de la bonne société italienne, avec une statue cette fois, qui va faire scandale au début du 19e siècle. C'est une jeune femme allongée à demi nue sur un lit de style empire. La tête repose nonchalamment sur son bras droit. Il s'agit de Pauline Borghese, qui est née Bonaparte. C'est la sœur de Napoléon. Qui est-elle? Comment vit-elle, cette jeune femme?
Eh bien, vous venez de le dire, elle est à la fois la sœur d'un empereur qui règne sur quasiment toute l'Europe et aussi l'épouse d'une personnalité assez importante de la noblesse italienne, et pourtant elle se montre nue. Elle voulait absolument que le monde garde un souvenir de sa beauté qui était jusqu'à présent inaltérée. On lui a proposé plusieurs possibilités, entre autres de la représenter en Diane, ce qui aurait nécessité qu'on lui couvre la poitrine partiellement, puisque Diane portait généralement une espèce de petite tunique qui ne lui couvrait qu'un sein sur deux. Là, elle a choisi Vénus, parce que Vénus, c'est l'incarnation absolue de la beauté. Elle a posé, on lui en a fait le reproche. Ce qu'elle a répondu, c'est que l'atelier du sculpteur était chauffé, donc il n'y avait pas de problème à se mettre nu devant lui. Malheureusement, cette statue qu'on voit toujours au Palais Borghese à Rome, qui est vraiment somptueuse, avec un grain du marbre qui rend la peau d'une manière très troublante, a été aussi la représentation de sa déchéance. C'est-à-dire que pendant toute la fin de sa vie, en tout cas en Italie, elle a comparé son corps qui commençait à s'altérer à cette statue qui représentait sa beauté absolue en Vénus victorieuse. Et malheureusement, ses contemporains faisaient la même chose, c'est-à-dire qu'ils comparaient l'état actuel du modèle avec ce qu'elle avait été.
Elle fait parfois même un parallèle avec la chute de l'Empire.
Mais oui. Ça, c'est parce que c'est son histoire familiale. Ouais. Personne d'autre qu'elle pouvait raconter une histoire pareille.
C'était de toute façon une femme scandaleuse, Pauline, qui collectionnait les hommes.
Oui, mais elle était quand même sœur d'empereur. Elle avait la possibilité de faire des choses que le commun des mortels ne pouvait pas se permettre.
Alors, vous l'avez dit, Vénus, la déesse de l'amour et de la beauté, Aphrodite chez les Grecs, c'est le personnage mythologique dont les seins ont été exposés le plus souvent.
Oui, parce que les déesses, en règle générale, n'appartiennent pas au monde commun des mortels. C'est-à-dire qu'elles sont aussi, elles représentent quelque chose. Et Vénus incarne la beauté. Elle incarne l'amour et la beauté. Et le corps nu, c'est quasiment son instrument de travail. C'est à la fois c'est la manière de représenter ce qu'elle est dans le cadre de l'Olympe, mais c'est aussi... Elle est obligée d'être la plus belle. Et pour montrer qu'elle est la plus belle, les sculpteurs, les peintres l'ont très très rapidement représentée nue, à tel point que aujourd'hui encore, on peut voir des milliers de représentations de cette nudité qui est considérée comme une espèce de maître étalon, on va dire. C'est à partir de la beauté de Vénus que les femmes... déesse ou mortelle devait se situer et c'est elle qui a gagné dans ce qu'on appelle le jugement de Paris. Elle a gagné une pomme d'or qui est le berger Paris désignant celle des trois femmes qu'on lui présentait, celle qui était la plus belle. Et ses seins ont joué un rôle essentiel dans ce petit challenge.
Nous ne quittons pas l'Italie, on s'arrête là à Venise où des femmes au XVIe siècle maquillent leurs tétons. Qui sont ces femmes et pourquoi maquillent-elles le bout de leurs seins d'une belle couleur rouge vermillon?
Alors ça, c'est une histoire assez étonnante quand on connaît l'attitude générale de nos sociétés par rapport à la prostitution. C'était une manière d'encourager la prostitution. C'est-à-dire que les doges redoutaient l'irruption à Venise de l'homosexualité masculine. Et donc, ils voulaient encourager les hommes à aller fréquenter des filles, fussent-elles prostituées. Et pour les mettre en valeur, ils les ont autorisés à se montrer les seins nus. D'ailleurs, dans la topologie vénitienne, il y a plusieurs rues, des ponts qui ont des noms, qui rappellent cette situation. Et pour qu'on les voit un peu plus, eh bien, elles se sont maquillées le mamelon. Je pense entre autres à une prostituée célèbre qui s'appelait Veronica Franco, dont on a gardé un portrait comme ça. C'était comme une enseigne, on va dire.
Veronica Franco, qui va connaître quand même des turpitudes, on va l'accuser des pires maux.
Oui, parce que il faut bien dire que la société était ambiguë, c'est-à-dire qu'elle prônait une certaine liberté d'un côté, mais en même temps, il y avait l'Église des pouvoirs, et on l'accusait de choses qui avaient un rapport avec la religion qui n'était pas forcément vraie, mais on ne pouvait pas accepter qu'une prostituée prenne le pouvoir qu'elle était en train d'acquérir dans cette ville.
Elle sera l'objet d'un long procès, elle meurt à 45 ans, elle a créé une institution d'aide aux prostituées qui sont tombées dans la misère, et donc si on va à Venise, si l'on se balade sur le Ponte delle Tete.
Voilà, c'est entre autres à ça que je faisais allusion. Oui, le Ponte delle Tete. Ouais,
on peut se souvenir de ces prostituées à leurs fenêtres. En France aussi, Marc Lemonnier, les seins des femmes ont été exposés. Et d'une manière assez étonnante, durant tout le Moyen-Âge, il y a la tradition, jusqu'au règne de Louis XII, des fameuses entrées royale. C'est une tradition donc qui est installée. Le nouveau souverain, son épouse, les dignitaires, les plus grands représentants de l'armée, se présentent aux principales villes. Que viennent faire les seins des femmes ici?
Ils sont décoratifs. C'est-à-dire que les dignitaires doivent faire assaut de spectaculaire pour organiser la réception la plus fastueuse qu'ils soient, leur nouveau souverain, parfois leur femme, enfin, etc. Et on représente des scènes vivantes. Là, j'ai attiré l'attention sur ces histoires de Saint-Denis, mais il y avait d'autres représentations, des arcs de triomphe, des scènes mythologiques, des scènes pastorales, etc. Mais la référence, c'est toujours la mythologie, c'est toujours l'Antiquité. Et dans l'Antiquité, ben, les filles étaient nues. Donc on représentait des personnages, des sirènes, mais aussi des personnages antiques, dans la nudité, mais c'était un costume. Et ce costume de nudité faisait partie de ce spectacle qu'on offrait à son souverain pour se faire bien voir, évidemment, pour qu'il ait après qu'il renvoie des bienfaits sur la ville qu'il accueillait avec un spectacle aussi intéressant.
Et c'était, pour qu'on soit bien clair, des femmes, des vraies femmes.
Oui, bien sûr, qui barbotaient dans l'eau généralement.
On va maintenant se rapprocher d'époques plus récentes, notamment avec vous, Marc Lemonnier, la naissance du soutien-gorge.
J'ai dansé sous ces airs. J'ai dansé sur « Yes, sir, that's my baby. Yes, we have no bananas. Charleston, c'est moi qui ai apporté le Charleston et Black Bottom et toutes ces danses frénétiques que ça apporte. »
Un jour dans l'histoire, sur la première, Laurent de Hausset.
Joséphine Baker, ici à propos de la Revue Nègre qui fut représentée à Paris dans les années 20. On reviendra avec vous, Marc Lemonnier, sur l'importance, le symbole que représente Joséphine Baker. Mais avant d'entamer le XXe siècle, évoquons l'un des grands symboles de la France. Et c'est l'une des grandes images qui est celle de la liberté guidant le peuple. C'est en 1831 que les visiteurs du Salon de Paris découvrent cette toile immense d'Eugène Delacroix. Qu'est-ce qu'on y voit ?
Eh bien, on y voit un personnage qui est là aussi une sorte de mythologie. Delacroix crée une mythologie républicaine et il se sert des allégories qui étaient déjà dans l'air depuis de toute éternité, c'est-à-dire que la femme nue représente un nouvel événement, il représente cette liberté. Tout est dans le titre, liberté guidant le peuple. Il a été très réactif puisqu'il fait allusion à une révolution qui sont les Trois Glorieuses, une révolution qui s'est déroulée quelques mois avant. Je pense qu'il a commencé à faire les esquisses de son tableau dès la révolution de 1830 et il invente un personnage fictif, je ne pense pas qu'il y ait eu de fille dénudée sur les barricades parisiennes, mais qui a cette dimension presque à l'antique. Quoi. Et d'ailleurs, quand on regarde son costume, on voit son sein, mais on voit aussi son costume, qui est un costume qui s'inspire de Rome et d'Athènes. Et puis, il y a le peuple autour qui devient spectateur de cette toute-puissance.
C'est une image d'ailleurs qui sera censurée parfois. Et
oui, alors il y a des gens qui ont refusé nos billets de banque puisque la liberté guidant le peuple et son petit nichon étaient sur les billets de 100 francs, 15 euros. Et donc il y a des gens qui se privaient d'un billet de 15 euros de par le monde parce qu'ils ne voulaient pas voir ce sein qu'ils ne voulaient pas voir justement.
Alors cette femme, cette guerrière au fond, elle va être remise au goût du jour très très récemment. D'autres mouvements s'en inspirent.
Oui, c'est-à-dire qu'elle a... Régulièrement, dans des manifestations en France, il y a toujours plus ou moins un personnage féminin qui l'incarne avec le sein nu. C'est le cas, entre autres, de manifestations contre la loi travail française il y a quelques mois. Et puis, on peut dire que les fémènes, tous les mouvements qui se servent de la nudité pour protester, que ce soit au Québec, que ce soit au Pérou, ont repris ça, sachant que cette nudité, ce n'est pas elles qui l'ont inventée. Je suis tombé sur les travaux d'une historienne de l'Afrique qui rappelait que pendant la colonisation, en l'occurrence la colonisation française en Afrique, les premières protestations étaient des protestations de femmes et que, jouant sur la difficulté qu'il y aurait pour un policier de tabasser une fille nue, manifestait les seins nus. Et donc, effectivement, le sein a repris une dimension politique il y a 7-8 ans, disons maintenant, avec ce mouvement venu des pays de l'Est. Il est en train un petit peu de se galvauder, hein, faut bien dire les choses comme elles sont, mais cette image montre la puissance quand même, la puissance dévastatrice du sein nu qui a toujours été une incarnation de la liberté, mais aussi de la contestation de l'ordre établi, et il garde une partie de cette puissance.
Et il faudra d'ailleurs cacher ce sein, à partir de quand les femmes commençaient à dissimuler leur sein ?
Eh ben, quasiment depuis toujours, hein, puisque on peut douter de la réalité de certaines images qu'on voit de la cour de Cléopâtre ou des choses comme ça, où on voit les filles en permanence les seins nus, ne serait-ce que pour des raisons pratiques, elles ne devaient pas les avoir tout le temps. Les premiers objets, vêtements, qui ont un rapport avec la dissimulation des seins, qu'on repère vraiment, ça date de la Rome antique, avec une nuance, c'est que ça n'était pas des bandelettes de tissu qui étaient destinées à soutenir le sein, mais au contraire, à l'aplatir et à le dissimuler. Et pendant très longtemps, le sein a été englobé dans l'ensemble du corps et dans l'ensemble du torse, avec parfois des vêtements qui le mettaient en valeur. On pense toujours au personnage d'une des favorites royales qui était Agnès Sorel, qui avait un sein nu sur les deux. Encore que les historiens doutent de la réalité de l'exhibition en question, ils pensent que c'est un peintre qui s'appelle Fouquet qui a un peu pris ses désirs pour des réalités, mais peu importe. Mais pendant très longtemps, le sein a été aplati et considéré comme une partie du torse, avec le summum qui a été le corset, qui a sans doute envoyé beaucoup de femmes du 19e siècle à l'hôpital plutôt qu'elles n'auraient dû. Ouais. Et puis, il y a eu l'invention du soutien-gorge que se partagent plusieurs personnes. Il y a une Anglaise, qui s'appelle Phelps, qui a inventé la brassière, qui était au début des années, à la fin des années 10, en 1913. Mais d'autres créatrices françaises prétendent aussi avoir inventé le soutien-gorge, sachant que ce qui a permis le développement du soutien-gorge, malheureusement, c'est la Première Guerre mondiale, puisque les femmes ont été beaucoup appelées à travailler dans les usines et aux champs. Et qu'il valait mieux que ça ballotte pas, excusez-moi de cette image.
Ouais. Et d'ailleurs, les seins qui seront considérés parfois comme une véritable arme de guerre, comme des obus.
Oui, alors ça, il faut chercher ça du côté d'Hollywood. C'est-à-dire qu'il y a eu une période où on reconnaissait une future carrière d'actrice américaine à la taille de ses seins. Alors, l'exemple absolu, c'était Jane Mansfield, qui devait faire du, je sais pas quoi, du 100, 105 ou je ne sais quoi. Ou peut-être beaucoup moins parce qu'on était impressionné par des tailles de poitrine. Il suffit de voir les quelques nues que nous avons de Marilyn Monroe, qui à l'écran apparaît comme étant une bombe atomique et puis qui était assez normale, sans doute. Et donc, on a inventé une forme de soutien-gorge. Alors c'est Howard Hawks, qui avait un goût pour l'aviation par ailleurs, qui a inventé un soutien-gorge fuselé, on va dire.
Ouais. Howard Hawks, milliardaire, grand ponte du cinéma aussi, grand producteur. Et puis après, il y aura Lady Gaga aussi qui va remettre ça au goût du jour, Austin Powers.
Et Madonna aussi. Ouais. Le soutien-gorge au but, encore du temps devant lui.
L'histoire de ça, nous sommes avec Marc Lemonnier. Il faut des ronds.